Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Et oui, 18h40, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec Cyprien Signy et toute la fine équipe. Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info avec un autre regard jusqu'à 19h. Quel est le menu, Cyprien ?
Ce soir, on défait le monde s'intéresse à votre repas de Noël. Oui, panique sur les huîtres, on vous explique tout. Au menu également, une autre question de fond. La course à pied est-elle de droite ou de gauche ? Céline en immersion a mené l'enquête. On vous parlera aussi d'une route qui s'allume toute seule, de garde suisse et de boulanger. On défait le monde la quotidienne, c'est parti !
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Ouais, alors peut-être pas au petit-déj, mais en fin d'année, les huîtres ont traditionnellement la cote hein, sur les tables des fêtes. La France est d'ailleurs le premier producteur, consommateur et exportateur d'huîtres en Europe, avec près de 130 000 tonnes produites par an en moyenne. Mais depuis la fin de semaine dernière, certains producteurs tirent la sonnette d'alarme.
On s'est donc demandé s'il y aurait bien des huîtres à Noël et pourquoi chaque année, le doute semble en nous s'immiscer.
On a donc contacté Thierry Elie, président du comité régional de la conchyliculture, c'est compliqué. Conchyliculture, pourtant je l'avais bien écrit. En Normandie, mer du Nord, la conchyliculture, évidemment, hein, c'est la culture des coquillages. Ah bah oui. Et donc soyez en partie rassurés, chers auditeurs.
Alors, on aura des huîtres à Noël, mais plus petites. Car il nous a manqué une pousse de printemps. Comme tout animal, quand il y a une pousse en moins ou une pousse moins forte, l'animal grandit moins vite.
Des huîtres, oui, donc, mais plus petites. Et ça s'explique par un phénomène complètement naturel.
On a eu pas assez d'eau douce au printemps, un été chaud et sec, donc grosso modo, la photosynthèse ne s'est pas faite pour faire le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est notre, entre guillemets, notre fourrage. Donc il y a eu une production moindre de nourriture ben, naturelle, parce que nous, on dépend entièrement de la mer nourricière. Donc, elles ont eu un peu de retard sur la croissance. Les remontées que l'on a au niveau national, c'est que ça touche à peu près tous les bassins.
Bon, des huîtres plus petites. On a quand même l'impression d'entendre tous les ans, à la même époque, le même signal d'alarme. Oh là là, on va risquer de manquer d'huîtres à Noël.
Mais c'est pas qu'une impression, Julien. Même Thierry Elie en convient et il vous explique pourquoi.
Oui, des fois je le lis. Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression... Ça semble être un marronnier pour certains, même pour des producteurs, d'annoncer, oh là là, pour essayer d'agir sur les prix. Ce qui est vain, parce que quand il y a la qualité et la quantité, ça ne marche pas.
Non, d'ailleurs, puisqu'on parle de prix, bah, il se peut qu'elles coûtent quand même un peu plus cher cette année, vos huîtres plus petites.
Pendant Covid, nous avons perdu des marges. C'est les producteurs, les expéditeurs-producteurs qui ont pris tout, les baisses de prix à leur compte. Là, l'augmentation va se faire, parce qu'il faut que les producteurs et les expéditeurs retrouvent des marges, de retrouver un cours d'avant Covid. Donc cette année, le consommateur devrait avoir peu de variations si ben, nos amis des grandes enseignes retiennent leurs marges.
Et si nos amis des grandes enseignes conservent leurs marges de l'an dernier, ben là, le prix des huîtres pour le consommateur devrait augmenter de 10 à 15%.
Ah oui, quand même. Donc elles sont plus petites, elles vont coûter plus cher.
En gros, c'est ça.
Joyeux Noël.
Mais vous en aurez, attendez, vous plaignez pas.
Joyeux Noël, Félix. Merci les amis.
RTL. Sous les radars.
Et tous les soirs, dans On défait le monde, une info passée inaperçue. Pourtant, celle-ci, elle était bien visible.
Ouais, avec ce soir une prouesse technologique. Et en plus, ça se passe en France, une route qui, en pleine nuit, vous permet de voir presque comme en plein jour. Il va falloir nous expliquer ça, Laurent.
Alors, c'est une première dans le pays. Je vous emmène dans le département des Landes. Mercredi dernier, une peinture photoluminescente a été appliquée sur un tronçon d'une route départementale, la RD29 à Saint-Pandelon, au sud de Dax. Alors, il s'agit d'une expérimentation d'un nouveau marquage routier qui, à ce jour, n'est pas homologué. Une section test de 450 mètres a été choisie. Une route non éclairée, sinueuse, accidentogène. Mode d'emploi avec Régis Jacquier, le directeur adjoint de l'aménagement du conseil départemental des Landes.
L'idée, c'est une section sur laquelle il y a de la peinture, je dirais, habituelle, la peinture normée, et la peinture luminescente, c'est-à-dire une peinture qui va emmagasiner la lumière pendant la journée pour la restituer à partir de la soirée et la nuit, de façon à améliorer le guidage des usagers.
Une peinture mise au point par une PME girondine qui stocke aussi la lumière des phares des voitures pour la restituer. Et la nuit, le marquage devient alors fluorescent. La peinture est visible pendant près de 10 heures, environ à 80 mètres de distance. Le conducteur peut donc mieux anticiper un virage. La méthode a déjà été appliquée pour des pistes cyclables, des passages piétons. Là, pour la route, on est seulement au stade de l'expérimentation.
Ce procédé n'est à ce jour pas normalisé. Donc, il va y avoir un suivi pendant 3 ans, pendant lequel on va étudier la trajectoire des véhicules, regarder comment ça vieillit, pour voir si, au bout des 3 ans, ce procédé peut être normalisé.
Verdict donc dans 3 ans, pour voir si cette solution peut être généralisée sur tout le territoire.
C'est formidable,
incroyable.
Ça, hein.
Et on pouvait aller voir les images sur Internet, c'est très impressionnant. On a vraiment l'impression que c'est quasiment comme un plein jour.
Et on pourrait tout peindre comme ça,
ouais,
hein,
ouais.
Et vivre comme en Islande.
Non, on est encore au stade de l'expérimentation,
ouais,
verdict dans 3 ans. Voilà.
C'est formidable la science, on n'y comprend pas toujours grand-chose dans ce studio, ouais. Mais c'est absolument formidable. Une petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. Tiens, on va vous expliquer comment postuler au Vatican. Si ça vous intéresse.
Ouais.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, bonne fin de journée avec RTL. On continue de défaire le monde. Voici la première info pour briller tout à l'heure au dîner.
Et alors que Jean Castex est en visite au Vatican, Arthur, vous voulez nous apprendre quelque chose sur l'armée du pape, les fameux Garde suisse, mon frère.
Oui, alors il y a un des critères de sélection, Cyprien, qui est très surprenant. Pour intégrer la garde suisse, la taille, ça compte. Oui, il faut mesurer au moins 1m74. C'est plus exigeant que l'armée de terre française, où c'est 1m50 pour les femmes et 1m55 pour les hommes. Et oui, bon, il y a d'autres obligations, hein, bien sûr, pour la garde suisse. Déjà, il faut être citoyen suisse.
Ouais, c'est logique.
De confession catholique,
ouais,
en effet, c'est logique. Et seuls les hommes célibataires entre 19 et 30 ans sont acceptés.
Né un jour impair au mois de décembre.
Exactement. Bon, et après une sélection drastique, vous serez peut-être admis dans la plus vieille armée professionnelle du monde. Elle existe depuis 1506. C'est aussi la plus petite. Elle compte 135 militaires.
Ah oui.
Mais bon, ils n'ont pas combattu depuis 1870 et l'unification de l'Italie.
Bon, avis aux intéressés, c'est quand même assez restreint. Comme
ils sont très bien habillés.
Oui,
c'est
Arlequin. C'est très joli. Ouais. Très, très joli. Merci beaucoup, Arthur, pour cette info.
Bon, Céline. En immersion.
Eh oui, nouveauté maintenant.
Grosse production.
Tendez l'oreille régulièrement. On ira défaire le monde sur le terrain de RTL Soir. Et aujourd'hui, c'est le cas.
Oui, Céline avait un peu besoin de prendre l'air. On l'a donc envoyée en reportage en immersion. Et Céline, avec ce désir de coller à l'actualité qui vous caractérise, vous avez choisi le salon Run Experience. C'est le salon du running qui se tenait en marge du marathon de Paris ce week-end. Avec cette vraie question de fond. Le runner est-il de droite ou de gauche? Pour qui courent les runners? Attention, étude pas du tout scientifique, mais de grande qualité quand même.
Oui, juste avant le départ du marathon, vous le disiez, je suis allée dans ce temple des runners, le salon Run Experience, là où les participants viennent retirer leur dossard. Un lieu avec plein de tapis de course et de baskets fluo en vitrine. Mais d'abord, tous le jurent, on ne mélange pas politique et running.
C'est un sport de plaisir, c'est pas politique.
Là-dessus, la politique n'a pas sa place en fait.
C'est pas politique et ça doit pas l'être.
On marche sur les deux pieds de toute façon, aussi bien celui de droite que celui de gauche. Je pense pas que la course à pied fasse de la politique.
Alors que la course à pied ne fasse pas de politique, soit, mais des politiques, eux, font de la course à pied et certains ne manquent pas de le faire savoir.
Footing de Nicolas Sarkozy avec François Fillon, son premier ministre.
Père de basket. De la course à pied pour être serein.
Je termine toujours les courses quand je commence. J'ai fait une quinzaine de marathons et beaucoup de semi-marathons.
Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Dominique de Villepin, tous accros au running et... Tiens, tous des hommes politiques de droite.
Vous avez en tête des responsables politiques de gauche qui se sont affichés, en tout cas, en train de courir.
Pas trop. Enfin, ça me vient pas.
Mélenchon, il n'a pas jamais...
Il y a très longtemps, alors.
Peut-être qu'à gauche, ils sont moins sportifs et préfèrent rester tranquilles dans leur petit dodo le matin plutôt qu'aller courir. Il faut en vouloir. Par tous les temps, il faut y aller. Il ne faut pas faire ça que les jours où il y a du soleil.
La droite, ça fait un peu l'homme en forme, l'homme costaud.
Et ça montre aussi que la personne est capable de faire des efforts, de se dépasser. Ça, c'est quand même utile quand on veut diriger un pays.
Et voilà, on y vient. L'image véhiculée par le running, celle d'une personne dynamique qui sait se dépasser et souffrir aussi, comme tous ceux qui prennent la ligne de départ. Près de 13 millions de coureurs, au moins occasionnels en France, autant d'électeurs potentiels qui ne sont pas toujours insensibles à cette proximité sportive et qui scrutent les moindres détails.
Vauquier qui porte une Garmin, une Phoenix, c'est la seule chose que j'ai vue. Du coup, c'est un runner.
La Garmin Phoenix,
c'est
un peu la Rolex du runner, si vous voulez, Julien. Et rien que sur une montre, eh bien, c'est tout un sentiment d'appartenance qui peut se créer.
C'est quand même assez communautaire, hein, que ce soit le running, le triathlon. Quand on en fait partie, ça peut faciliter des liens et des rapprochements. T'es dans le même monde qu'eux, quoi. Par exemple, je sais que le maire de Cannes fait le marathon de Nice-Cannes. Quand il est sur le bord du chemin, j'ai couru à côté de lui. Pas parce que je suivais, hein, parce que j'ai doublé, mais... Ouais. Et il y avait tous les gens qui étaient sur le bord du chemin et qui l'encourageaient.
Ils ne peuvent pas prendre le chauffeur, en fait, hein, pour se faire conduire. Donc, ils sont un peu à nu. Ça peut faire gagner quelques voix, quelques dixièmes de pourcent, peut-être.
Le petit conseil dont défait le monde, donc, pour les candidats à la présidentielle, c'est gratuit. à vos baskets.
Bon, il nous disait pas de politique, les runners.
Non, non, surtout pas.
Ah, un peu quand même.
Hein. Ça penche à droite, non?
Un peu quand même.
Moi, je trouve que ça penche à droite.
On n'a toujours pas trouvé un runner de gauche. merci en tout cas, Céline, pour cette enquête. Comment vous dites
En immersion.
Cyprien. Oui, ah, en immersion.
Pas du tout scientifique.
Pas du tout scientifique.
Mais de grande qualité.
Mais de très grande qualité quand même. Merci beaucoup, Céline. Juste avant de faire une petite pause dans RTL Soir, vous avez une surprise, Cyprien.
Ah, bah oui, oui. Vous reconnaissez ? La musique des grosses têtes, car la valise a été gagnée cet après-midi. Du coup, j'ajoute, d'ailleurs nous ajoutons dans la nouvelle valise des grosses têtes une machine à café Russell Hobbs. La valise, c'est dans les grosses têtes tous les jours entre 15h30 et 18h.
Voilà, machine payée évidemment sur le salaire astronomique de Cyprien. Ah. Une petite pause et ensuite une info pour briller au dîner. Tiens, on va parler sondage, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h55, on continue de défaire le monde dans RTL Soir et on vous offre ces cadeaux. Une seconde info pour briller tout à l'heure au dîner.
Aujourd'hui, c'est l'ouverture du procès des sondages de l'Elysée, la présidence Sarkozy, qui a acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de sondages. Mais vous, Céline, vous nous ramenez au début du concept.
Oui, je voulais vous parler de Jean Stotzel, le pionnier qui nous a rapporté des États-Unis cette notion d'opinion publique. C'est le fondateur de l'IFOP, qui a donc lancé en 1938 la première enquête d'opinion publique en France. Elle portait sur les accords de Munich qui venaient d'être signés. Et l'on apprend ainsi que quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale, 70% des sondés estimaient que la France et l'Angleterre devaient désormais résister à toute nouvelle exigence d'Hitler.
Ah oui, c'est incroyable, ce sondage, donc. Bon, mais je dois quand même choisir entre les deux infos que vous pourriez au dîner.
Et 70% des auditeurs pensent que vous allez me choisir.
Ah,
c'est sûr. Écoutez, sondage pour scientifique.
Parfois, les sondages sont déjoués, parce que j'aime beaucoup la tenue des gardes suisses.
Encore
qu'est-ce qui se passe, Damien?
Non, encore une victoire d'Arthur. Quel talent.
Mais vous ne pouvez pas postuler, Julien, pourtant.
Pour les gardes suisses, pourquoi je suis
plus Vous n'êtes pas suisse.
Je suis pas suisse. Voilà, pas mal. Voilà, je choisis l'info d'Arthur sur les gardes suisses. Ce critère de recrutement assez restrictif.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs avant 19h, c'est le coup de fil plaisir. On vous appelle et vous nous racontez vos parcours de vie, vos projets.
Entre repeuplement des villages et parcours de vie, donc vous nous faites découvrir. Franchement, une très belle histoire ce soir, Laurent.
Direction la Seine-et-Marne, le village de la Grande Paroisse, près de 3000 habitants. Olivier, 48 ans, est boulanger. Il a racheté début août la boulangerie de la commune fermée depuis plus d'un an et un établissement qu'il connaît bien puisqu'il y a fait ses premières armes. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
C'est une belle histoire. Vous avez démarré dans le métier il y a 35 ans, aux côtés de Francine et Jean-Claude, les anciens propriétaires. Qu'est-ce que cela vous fait d'être le nouveau gérant ?
Ben c'est un pincement au cœur parce que bon, j'ai commencé à 13 ans et demi avec eux ici à la boulangerie de la Grande Paroisse et le fait de l'avoir repris, pour moi c'est énorme, j'aurais jamais cru pu reprendre cette boulangerie, surtout où c'est que j'ai commencé mes premiers pas, mon apprentissage, c'est énorme pour moi.
Dites-nous, c'était un rêve de la reprendre ou c'est l'opportunité de la vie qui a fait ça ?
Non, en fin de compte, bon, je suis resté 25 ans dans la même boîte, j'étais peut-être pas prêt à faire mon premier pas en tant que patron, mais là, quand j'ai vu que cette boulangerie était fermée, je me posais des questions, je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche, on m'a dit qu'elle était en liquidation, et quand j'ai su qu'elle était en liquidation, ça a été peut-être l'opportunité de faire le premier pas et de... C'est vrai que cette boulangerie, pour moi, c'est tout, parce que Jean-Claude et Francine, Jean-Claude m'a appris un peu toute la vie, c'est comme mon père, il m'a appris, si j'en suis là, c'est grâce à lui, sur le métier, sur la vie, sur pas mal de choses, et pour moi, c'était un honneur de reprendre celle-là et de lui faire plaisir. Ça s'explique pas, ça, c'est émotionnellement, c'est un tout, ça a été extraordinaire.
Vous le disiez, cette boulangerie, elle était fermée depuis de longs mois. Bon, j'imagine que vous, il y a ce côté émotionnel, mais pour les habitants qui sont peut-être moins émus, mais ravis de retrouver du pain tout près de chez eux, non ?
Oui, ça c'est sûr, on entend beaucoup les clients qui sont très contents, satisfaits du pain, de la pâtisserie, et de revoir, bon, que d'aller sur Montreux, sur Ville, vers nous, là les gens, ils ont leur boulanger à proximité, dans leur village, et les gens sont très contents, et on a beaucoup de retours en positif, ça c'est énorme, et pour moi c'est encore plus encourageant, et de me défoncer encore plus pour eux.
C'est quoi votre spécialité ?
On n'a pas vraiment de spécialité parce que c'est... en fin de compte, on va faire que ce soit en pâtisserie ou en pain, on va rester simple et classique mais très bon. Et on va évoluer dans d'autres produits, tout ce qui est mousse, tout ce qui est... Voilà, la pâtisserie un peu plus classe.
Toujours bon. Ouais,
voilà, ah oui, ça, parce que là c'est très très bon, il ne faut pas qu'il y ait de retour négatif.
Rendez-vous dans le village de la Grande Paroisse, la boulangerie d'Olivier vous attend.
Merci Olivier. On passera vous voir, merci Olivier.
Bah, je vous remercie pour tout, bonne soirée à vous.
Merci Olivier, bonne soirée effectivement. Et merci à vous les amis dont défait le monde. Demain on se retrouve, même heure, même endroit, 18h40 dans RTL Soir. À demain.
À demain. À demain.
Dans un instant ce sera le journal de 19h. Sachez qu'Emmanuel Wargon sera ensuite notre invité, la ministre du Logement, qui va s'expliquer après avoir critiqué les maisons individuelles. En attendant, on va s'intéresser au temps.